Bonjour, c'est Stéphane de Proxy Jeux. C'est samedi, on est toujours à Cannes et je suis avec un exposant original, un auteur de jeux qui s'auto-édite sur un thème très séduisant qui, moi, évidemment, en tant que Normand, m'a tout de suite tapé dans l'œil. C'est Eric Gray de chez EG Game ou Egg Game avec un petit jeu de mots sur jeu et œuf en anglais qui va nous parler de la traversée du Mont-Saint-Michel à D. Eric, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bonjour Stéphane, Eric, et donc je suis ingénieur packaging dans le parfum et passionné de jeux comme beaucoup d'autres. Et j'ai créé le jeu de la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à D et non pas à pied pour un nouveau regard sur cette traversée.
Alors, tu es normand toi-même ou tu es à côté du Mont-Saint-Michel? Enfin, comment t'es venu l'idée?
Alors, effectivement, je suis normand, d'Avranches plus précisément, et exporté en région parisienne pour des besoins professionnels. Mais mon âme est normande. Alors, le jeu, effectivement, est une inspiration de mon enfance, puisque j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire cette traversée, cette vraie traversée qui mérite le détour, hein, où on peut découvrir ce qu'est un sable mouvant, où on voit cette marche sur du sable ondulé, et je pense que ça m'a inspiré. Voilà. Alors le thème, cette traversée reprend les ingrédients de ce qu'est la vraie traversée. À savoir l'archange Saint-Michel qui est figure au sommet du mont et que l'on voit de loin et qui apparaît dans le jeu, les sables mouvants que j'ai évoqués, le biscuit joue un rôle important pour les compenser la malchance des dés, car ça reste un jeu de dés. Et le tout est pimenté par la marée qui monte. Votre but sera d'atteindre le Mont-Saint-Michel sans vous faire noyer, et c'est pas forcément évident.
Alors, pour ceux qui sont pas les régionaux de l'étape, on réexplique effectivement que la traversée entre le mont, qui était une île, qui est devenue une presqu'île et qui est redevenue d'ailleurs très récemment une île puisque les travaux ont été faits pour que la marée passe et puis que la passerelle n'est plus une passerelle définitive. C'est le je me rappelle bien, elle flotte maintenant, je sais plus, elle est sur pilotis, je crois. Enfin bref, c'est effectivement très dangereux. C'est pas une blague quand on parle de sable mouvant et de, il y a régulièrement eu des gens qui sont fait avoir parce que la marée, en fait, par un phénomène, en fait, à la fois de grandes marées et de, à cause de la configuration locale, remonte vraiment très très vite, à tel point qu'on peut réellement, il y a eu des noyés régulièrement parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point la marée peut remonter rapidement, et on peut vraiment, parce qu'on ne peut pas marcher très vite puisqu'on est sur un terrain sablonneux difficile, voire même avec en plus des sables mouvants, on peut réellement se faire coincer sur un bras de sable dont on n'a pas trop compris comment on pouvait s'échapper, plus les gens qui ont un peu peur de se mouiller et puis ou qui savent pas nager dans un mètre d'eau, et puis voilà, il y a eu des drames comme ça. Donc c'est pas une blague, hein, je voulais juste dire, parce qu'effectivement on est de loin de ça peut paraître un peu bizarre, mais non, c'est totalement vrai.
Non, mais tout à fait. Ce jeu s'inscrit dans une démarche pédagogique, celui justement d'avertir sur les dangers de la marée. Comme tu dis, Stéphane, tous les ans ou tous les deux ans, il y a des personnes qui se noient en faisant la traversée parce qu'ils ont fait le choix de faire la traversée sans guide. Et aujourd'hui, effectivement, il avertit de ses dangers. Et c'est un regard éducatif qu'on apporte aussi sur ce jeu, qui est d'ailleurs apprécié par les ludothèques et par les écoles.
Alors maintenant, on va parler un petit peu du jeu en lui-même. Alors c'est un jeu à base de dés, mais surtout un petit peu un jeu où il faut un petit peu s'appuyer sur les autres, un peu comme des marcheurs qui s'entraident. Donc on a deux personnages à sa couleur, plus les personnages de tous les autres joueurs. Donc c'est un jeu assez marrant qui peut fonctionner de deux jusqu'à sept joueurs. Je vais laisser Eric nous expliquer rapidement le fonctionnement.
Alors non seulement il se joue de deux à sept joueurs, mais il se joue surtout de un à sept joueurs, car il peut se jouer seul. Et vous jouez contre la marée, et il n'est pas dit d'arriver au mont. Voilà. Il se joue à 7 joueurs dans un esprit semi-coopératif, c'est-à-dire que vous jouez seul, donc votre but est de atteindre le Mont-Saint-Michel, mais vous avez besoin des autres pour pouvoir gagner. C'est-à-dire qu'il y a un système d'effet de groupe ou de saut de mouton qui... Voilà, donc le principe du jeu, c'est un jeu de parcours où on va se servir des dés pour avancer de case en case, et on va se servir des autres pions pour pouvoir rebondir dessus et pouvoir passer au-dessus et avancer. Donc il s'agit d'un jeu de parcours où vous avez une multitude de cases avec des chiffres. Charge à vous de choisir le chemin qui vous séduit le plus, ou en tout cas qui vous permet d'avancer le plus, grâce aux dés que vous lancez. Sur ce parcours, vous avez d'autres pèlerins qui se baladent, qui vous permettent des pas de géant. Et toi, c'est vrai que je l'explique toujours plus facilement en ayant le plateau sous le bras, et que là, finalement, sans avoir le plateau, il est toujours difficile de s'exprimer autour de ça. Mais il ne s'agit pas simplement d'un petit jeu de parcours comme pourrait être le jeu de loi. Il s'agit d'un jeu de parcours qui offre plusieurs solutions et plusieurs choix. Celui de choisir un chemin ou l'autre, ou celui de faire une pause biscuit pour mieux se reprendre par la suite.
Voilà, avec un petit biscuit quand on n'a pas de chance, en fait, on décide d'abord de passer son tour, en gros, et on obtient un biscuit, bien sûr, un biscuit de comment elle s'appelle, la crêpière, la mère Poulard, juste à côté, au Mont, et en fait, ça permet en fait de servir de joker, en fait, pour le prochain tour, ou pour les prochains tours, on remplace un dé par, on pourra, plutôt que d'exiger un dé 6, par exemple, pour aller sur la dalle 6 devant, on pourra, comme ça, jouer son biscuit. Voilà.
Exactement. Et je voulais préciser justement qu'il ne s'agit pas simplement d'un jeu de dés, comme on a beaucoup de jeux où simplement les dés nous amènent sur une part d'aléatoire conséquente. Ici, vous avez le biscuit qui permet de compenser justement ce problème des dés pour vous amener sur d'autres solutions, celui de prendre un biscuit, de se reposer pour mieux repartir.
Voilà, deuxième effet. Donc là, c'est avec un dé, on a une chance sur 6 de s'embourber. Et avec une autre face, on a une chance sur 6 d'avoir une petite faveur. C'est l'archange Saint-Michel qui va vous donner, pareil, un dé supplémentaire, son soutien. Donc, je crois que c'est une relance.
Alors, l'effet de l'archange, effectivement, est celui de gagner un cube archange que vous pouvez jouer immédiatement ou conserver. Il vous permettra de relancer les dés blancs tout ou partie, ce qui vous arrangera le mieux.
Voilà. Alors, sur le plateau sont dessinées donc des cases, plusieurs en fait, comme une sorte de grande baie, quoi, enfin de grande plage en fait, pour ceux qui connaissent pas. Et sur ces cases sont dessinés effectivement les numéros des dés, quoi, les phases des dés qu'il faut faire pour aller sur cette case. Sauf qu'effectivement, il faut concilier votre tirage de dés avec ce qu'il y a sur le plateau. Et puis, c'est à vous de prendre des risques, sachant que derrière la menace de la marée, c'est quoi? Bah, c'est qu'on réduit le plateau, un peu comme dans le même système que Nord-Ouest Passage, où là il y a la calotte polaire qui descend, qui glace. Bah, là, c'est pareil. La marée qui monte, et il y a pareil un effet sympa, c'est qu'au début elle monte tranquillement au loin, et puis plus ça va, plus les écarts se rapprochent, et puis d'un coup c'est carrément des rangées de positions de dés qui dégagent, et là vous êtes noyé.
Et vous êtes noyé, et personne n'atteint le Mont Saint-Michel, et tout le monde finit noyé, et le jeu gagne. Et autrement dit, il n'y a pas de perdant, ce qui n'est pas forcément ce qu'on ne retrouve pas forcément sur tous les jeux. Charge à vous de refaire une prochaine traversée et d'y arriver.
Alors au milieu, il y a aussi un petit, une autre façon de scorer plutôt que d'arriver au Mont, c'est l'îlot de Tomblaine.
Alors l'îlot de Tomblaine, il a une particularité qui est bien réelle, c'est que quand la marée est proche, il vaut mieux aller se réfugier sur l'îlot de Tomblaine, quitte à, pour survivre. Et donc si personne n'atteint le Mont Saint-Michel, le survivant de Tomblaine gagnera la partie, car il aura le mérite de survivre.
Voilà, donc en gros, il y a un moment donné quand il faut choisir, est-ce que je continue ou est-ce que finalement je termine à moitié parcours et au moins j'en ai sauvé un, quitte à finir avec un seul pèlerin. Mais là, on s'handicape puisque évidemment l'effet de rebond tout seul est moins fort. Enfin bref, il y a tout un petit jeu comme ça quand on joue qui est très bien avec les rebonds, les machins. Il y a une sorte de, est-ce que je continue, est-ce que je passe plus haut, mais je vais me... Enfin bref, c'est pas très très bien fait. Alors pourquoi le choix de... Donc tu as choisi l'auto-édition.
Oui, j'ai choisi le choix de l'auto-édition parce que j'ai eu le retour du public sur ce jeu durant les festivals que j'ai pu faire pour présenter le jeu, et que de par sa thématique, ça m'intéressait d'aller découvrir aussi en particulier la Normandie, la Bretagne et plus généralement les Français autour de ce site qui est aujourd'hui le monument le plus visité de France. Pour moi, c'était une façon de découvrir l'univers du jeu et d'aller au bout de ma démarche personnelle.
D'accord. Alors, comment s'est passée l'édition? Tu as lancé des devis? Tu t'es rapproché d'abord de quoi? D'un illustrateur? D'un imprimeur? Comment tu t'es débrouillé?
Alors, comme tout débutant, on fait un petit peu avec les moyens du bord. Mais effectivement, j'ai pris un illustrateur qui est ma cousine. et qui a réalisé cette aquarelle. Alors, qui est d'ailleurs un facteur différenciant, car aujourd'hui on voit pas beaucoup de jeux décorés par aquarelle. Et puis ensuite, j'ai fait la démarche de contacter des fournisseurs. Pour trouver le meilleur choix en termes de réalisation et en termes de prix. Alors, de par l'expérience que j'ai en tant qu'ingénieur packaging, ça me permet de connaître la chaîne graphique et les différents processus de fabrication et de faire des choix. J'ai fait notamment le choix d'avoir des pions en bois. Tous les pions sont en bois. Et j'ai fait le choix d'avoir le reste des matériaux en carton. De telle façon à avoir un produit écologique et d'avoir un produit fabriqué en France.
D'accord, donc c'est complètement fabriqué en France. À part les pions, peut-être que tu as pris en Allemagne chez notre un fameux fournisseur que tout le monde connaît.
Exactement, tu as raison de le préciser Stéphane, les pions sont achetés chez Spielmaterial en Allemagne, donc fournis donc et je m'approvisionne des boîtes chez Ferio Creek. Le reste, l'assemblage, c'est moi qui le fais chez moi.
Ah oui, donc tu as des dimanches après-midi bien occupés avec des petits bols de meeple.
Très, très sympathique. Et puis j'invite aussi les créateurs de jeux qui sont tentés par cette démarche d'aller dans ce sens, celui de découvrir ce que c'est aussi de fabriquer un jeu. C'est toujours bien de voir et de comprendre ce que c'est aussi en termes d'investissement assembler un jeu et le cellophaner. C'est comme quand vous allez en entreprise, passer par un stage ouvrier. Je trouve que c'est toujours bien de passer par les différents étapes qui vous permettent ensuite de comprendre ce que représente chaque étape du processus.
Bon, alors fabriquer son jeu c'est très bien, mais si c'est pour se retrouver avec des boîtes sur les bras qui finissent dans le grenier ou au garage, c'est moins bien. On peut tout nous expliquer l'étape suivante qui est la commercialisation ou la distribution.
Alors la distribution c'est le facteur clé pour le jeu de société. Sans distribution vous ne faites rien. Alors la distribution, soit vous choisissez d'aller avec des partenaires distributeurs qui vous prendront qui vous ponctionneront une marge dessus et c'est bien normal, chacun travaille. Soit vous faites le choix, comme je l'ai fait, de m'auto-distribuer également, c'est-à-dire de faire la démarche d'aller vers les boutiques, vers les entités concernées. Alors pour moi, il s'agit par exemple des guides de la baie, il s'agit des librairies, parce qu'avec un thème comme celui-ci, on touche aussi les librairies. Je suis d'ailleurs invité au Salon du Livre de Granville sur ce sujet. Donc c'est aussi une expérience que de voir comment s'effectue la distribution. Alors, n'oublions pas une chose, et c'est ça pour moi qui fait le jeu de société. Si le jeu ne fonctionne pas, si le jeu ne plaît pas au public, distribution, conception n'apporteront rien, le jeu restera à la cave. Il faut tout d'abord que le jeu plaise. Et c'est pour ça que la première étape est celle d'être confronté au public au travers des festivals de jeux de société, que ce soit les petits concours de créateurs de jeux de société, que ce soit être invité sur un jeu de société pour avoir le retour du public. Si j'avais pas eu le retour du public, je me serais pas lancé dans cette aventure.
D'accord Eric. Alors aujourd'hui, tu fais le salon de Cannes, tu as même ton propre stand qui n'est pas gratuit, j'imagine, c'est encore un investissement. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur un salon comme Cannes au milieu de tous les grands et de tout ce public très nombreux d'ailleurs aujourd'hui?
Oui, alors effectivement, je pense aussi la distribution, c'est une chose, mais la communication en est une autre. Communication, c'est quoi? C'est se montrer. Et pour moi, il était important d'être là à Cannes sur mon stand et pas sur une table d'auteur. Sur mon stand, pour monter aussi la crédibilité de ma démarche. À Cannes, c'est le festival incontournable aujourd'hui, 150 000 visiteurs. Et puis pour moi, c'est aussi une découverte. C'est la première fois que je viens à Cannes, que ce soit en joueur ou en exposant. Donc Cannes était une étape importante.
Ouais. Et après, donc, réussi à avoir des contacts. Bon, déjà, tu vends des boîtes en direct, tu fais des démos. Tu as deux tables de démos, en fait, je crois, dans 9 mètres carrés. Ça coûte combien, à peu près, ce stand-là ?
Effectivement. Donc, c'est un investissement. Le stand m'a coûté, je crois, aux alentours de 600 euros. C'est un investissement de poids pour des jeunes éditeurs comme je suis. Mais je crois que... pour réussir ou en tout cas pour tenter des choses, il faut aussi investir un minimum. Alors, peut-être que cet investissement ne sera pas rentabilisé immédiatement, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir le public et de voir les acteurs sur le marché, comme toi Stéphane, comme d'autres éditeurs, des distributeurs et un large public qui peut, à un moment ou à un autre, vous aider dans cette démarche.
Très bien, Eric. Pour finir, tu peux nous présenter, enfin nous parler vite fait des autres jeux, parce qu'en fait, t'as d'autres jeux, qu'est-ce qu'ils sont, etc. Et puis, si éventuellement, tu as d'autres projets à venir.
Alors oui, ça fait 15 ans que je crée des jeux de société, et ça fait 3 mois que je viens de lancer mon premier jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la démarche de créateur ne doit pas être une démarche précipitée. Ça veut dire que créer un jeu, oui, le tester, c'est mieux. Ça veut dire qu'un bon jeu, c'est 2 ans de test. Alors après, plus ou moins, selon aussi la faculté de chacun et des testeurs, mais il faut prendre son temps. Aujourd'hui, j'ai 5 jeux d'aboutis. Et j'en ai sorti un. Et j'en ai 5 jeux en travail. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, le prochain jeu s'appelle Foot et Math. C'est un jeu sur le sport, donc sur le foot. C'est un jeu tactique. Pour les amoureux des échecs et pour les amoureux du football. Pardon. Et là, en ce moment, je travaille sur le 3e jeu qui paraîtra d'ici 1 an, qui est un petit jeu aussi familial avec un brin de tactique sur un thème qui m'est cher, l'univers qui m'appartient, enfin, et qui appartient à d'autres également, à savoir les sites culturels ou les monuments. Le prochain jeu sera sur la Tour Eiffel.
D'accord. Ah bah après, bah voilà, tu fais tous les jeux touristiques. Après, ça, il y aura plus qu'à faire le Louvre, ça te fera une trilogie. Là. Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, le Louvre, les 3 monuments les plus visités, je crois. Voilà.
Ouais. Et je rajoute à cela que j'ai aussi un jeu sur le Mont Blanc qui verra le jour un petit peu après.
Quand il sera prêt, ça sera peut-être la crème de tes jeux. Le Mont Blanc. Mais d'accord, désolé.
Joli. Alors le jeu est prêt, mais je pense que. Ma conviction, c'est que il faut sortir les jeux peut-être tous les 6 mois, tous les ans. Je m'interroge justement là-dessus. Qu'est-ce qu'il est mieux de faire ? Est-ce qu'il est mieux de sortir 2 ou 3 jeux en même temps, ou est-ce qu'il est mieux de profiter d'un jeu et de ne pas le cannibaliser tout de suite par un autre ?
Oui, c'est vrai que le problème du rythme des sorties des jeux est un problème, je crois, que tout le monde se pose en ce moment. Tout le monde est un peu débordé par plein de nouveautés. Et je crois qu'effectivement, c'est une bonne question de savoir sur quel rythme se baser. Eh bien, écoute, on peut retrouver toutes ces infos et voire même commander le jeu, je crois, sur ton site. Tu vas nous redire tout ça, le prix, pour combien de joueurs et où est-ce qu'on peut trouver.
Tout à fait. On peut donc commander aujourd'hui le jeu sur mon site internet eggame.fr au prix de 27 € plus les frais de port. Vous le trouverez également dans des boutiques de jeux, la plupart des boutiques en Normandie et en Bretagne de jeux de société au prix de 32 € prix public.
Redis ton site.
Mon site eggame.fr.
Eh bien, merci beaucoup Eric pour cette petite interview en haut du Palais des Festivals, là où on a une belle vue d'ailleurs, une jolie mer qui malheureusement est complètement nulle par rapport à la mer normande. On est bien d'accord Eric, c'est pas des vrais marais ici, c'est n'importe quoi cette mer méditerranée.
Oui, on est plus tranquille, hein. Au moins on risque de faire le festival en entier.
Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Eric et au revoir.
Merci, au revoir.